que Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux Sieur de Terrien.
Oh que oui, et c'est, là, c'est du sérieux ce matin, parce qu'on a encabané le Sieur de Terrien dans une régie ici quelque part, pour la simple et unique raison que c'est la dernière chronique historique de la saison. Et pour l'occasion, François, tu nous as préparé un examen de fin de session.
Oh que oui.
La dernière fois que j'ai eu devant moi une feuille qui était écrit examen de fin de session, c'était à l'université.
Moi, je m'en rappelle plus.
Et j'ai pas été diplômé cette fois-là.
Puis, je veux juste rajouter que je trouve pas ça correct parce que tout au long de la saison, je n'y étais pas. Et là, l'examen arrive. C'est comme si je faisais un examen sans avoir assisté à aucun cours.
Mais ça, je me demande. Je pense que la pression est plus sur Vez et moi que sur toi. Parce que si toi, t'as pas un bon score, c'est pas grave. T'étais pas là pendant les chroniques.
C'est vrai.
Mais si t'as un bon score puis pas nous.
On a l'air fou.
Là, on a l'air fou pas à moitié. Bon. Là.
Mais je dirais que les chroniques sont toutes archivées, alors ce n'est pas une raison.
C'est...
Hey, le professeur, là.
Non,
ouais,
non, mais des remplacements, là. Des remplacements, ça se prépare. Je m'attendais à ce que, je m'attendais à ce que tu te sois tapé au moins là, un bon 15-20 heures de chronique historique.
Je suis lâche,
filière mineuse. OK, ben écoute, François, ça fait que moi, je suis prêt si tu l'es. Oui, je suis prêt si tu l'es pour l'examen de fin de session.
Et évidemment, les auditeurs peuvent jouer avec nous autres.
Ce que j'allais dire, vous pouvez nous envoyer vos réponses par texto 25226.
Okay, je vais aller lire les textos.
Si vous voulez.
Non, je garde les textos. Là.
Vous fermez votre page texto. Là. Moi, je suis devant Twitter, c'est correct. Là.
Je peux être devant Google, moi?
Non, pas de Google. Non, mais... On ferme les ordinateurs.
Ah, shit.
À vos crayons, c'est parti.
Alors, on est prêt.
Go.
Alors, première question. C'est un homme de Québec. Impliqué dans plusieurs organismes, j'ai dirigé plusieurs entreprises et j'ai même contribué à la mise sur pied d'un hôpital.
Ah, faudrait qu'on l'écrive.
Ouais, ben écrivez-le, puis on donnera les réponses à la fin. On pourrait faire ça comme ça.
Ouais, c'est ça. Ben en fait, on va donne-nous deux secondes pour l'écrire, puis après ça, tu nous donneras la réponse.
Ah, ben je peux faire ça.
Ouais, ça.
Est-ce que c'est écrit?
Oui.
Non.
Il y a une école qui porte son nom.
Un centre, de formation professionnelle.
C'est bon. Alors, vous avez la réponse, j'ai l'impression. Oui. Allez-y.
Wilbrod Bérère.
Yes!
Bravo! Wilbrod Bérère, né. Oui!
Yes!
Ah ouais!
Wow.
L'humiliation, c'est pour plus tard.
Ouais, c'est pas pire. C'est pas
Alors,
pire.
Né à Saint-Fidèle, dans Charlevoix, établi assez tôt à Québec pour venir étudier, c'est un avocat de formation. Il se spécialise dans le droit des affaires, ce qui était rare pour les Canadiens français à l'époque. Il a dirigé plusieurs entreprises dans des domaines variés, là. Le chantier maritime George T. Davy, Télécapital, la Commission des écoles catholiques de Québec, le Carnaval de Québec, qui a été président du Carnaval, et bien d'autres. Et comme Vez l'a si bien dit, le Studio Vez, un centre de formation professionnelle, porte son nom.
OK.
Bon.
Deuxième question. Ça, c'était la chronique préférée de Paul Raphaël.
Oui.
Il m'a dit, faudrait que tu nous parles de Léo Major.
Ah, celle-là, je l'ai aimé.
Qui est Léo Major? C'est l'un des soldats canadiens qui s'est le plus distingué au combat. Il a participé à deux conflits armés, la Deuxième Guerre mondiale et la Guerre de Corée. Pendant la libération de l'Europe en 1944-45, il a chassé à lui seul les Allemands de la ville de Zwolle. Dans quel pays est située cette ville? A. La Belgique. B. La Hollande. C. Le Luxembourg. D. Le Danemark.
C'est quoi, Tommy Tovel? Je pense que j'ai...
Pas.
Non, mais j'avais écrit ma réponse avant toi, mais je pense que t'as pas la bonne.
Alors, je répète. Ben A. Belgique. B. Hollande. C. Luxembourg. D. Danemark.
Est-ce que... Vas-y.
Je vais essayer. La lettre C.
Alors, C pour Marie-France.
Moi, je dirais B, la Hollande.
Puis moi, je mets A, la Belgique.
Ça va pas bien.
La réponse est B.
Oui!
C'est la Hollande.
Bravo moi-même.
Ah ben oui, je suis pas niaiseuse. Je suis allée là en plus, puis vous en avez parlé.
T'es allée à Zwolle?
Ben moi j'avais fait le tour pour la Deuxième Guerre. Là, j'avais visité l'Est de l'Europe, puis le centre un tout petit peu. Ouais, j'avais fait les camps de concentration à Auschwitz. Je m'étais promenée un tout petit peu. Mais oui, maudite perdue.
Alors Zwolle, c'est une ville de Hollande. C'était à toute fin de la guerre que c'est arrivé cette libération-là. Puis c'était pas prévu comme ça, évidemment. Major s'en allait en éclaireur avec un autre soldat qui, lui, a été tué pendant la mission. Puis, il a décidé d'entrer dans la ville, puis il a tombé sur le commandant de la garnison un peu par hasard. Il était réuni avec d'autres officiers dans un bar. Alors, il les a fait prisonniers, puis il a fait croire à cet officier-là, qui était un Alsacien, donc qui parlait français, de quitter la ville parce qu'il y avait une attaque qui s'en venait, là. C'était imminent. Et pour ajouter à son bluff, lui, il est parti, puis il a quadrillé la ville, il tirait de la mitraillette, il tirait des grenades un peu partout où il était sûr qu'il n'y avait personne pour faire croire qu'il se passait quelque chose. Il y avait vraiment des soldats qui s'en venaient. Il y a une rue de la ville qui porte son nom, et cette saison, l'équipe de soccer professionnelle de Zwolle arbore son nom sur leur chandail avec les drapeaux canadiens et québécois de chaque côté. Ça commémore le 75e anniversaire de son exploit. Major, là, il est considéré comme un dieu en Hollande, mais chez nous, ses exploits étaient relativement peu connus jusqu'à tout récemment. Léo Major est retourné quelquefois en Hollande où il a été accueilli en héros. Évidemment, il est décédé en 2008.
Troisième question.
Les pâtes et papiers ont été la principale industrie au Québec dans le premier tiers du 20e siècle. Combien d'usines de transformation du bois en papier ont été construites au Québec? A. Entre 25 et 50. B. Entre 51 et 100. C. Entre 101 et 150. Et D. Entre 151 et 200.
On n'a pas encore répondu C. Fait que je vais cocher C.
OK. Moi, je vais dire D. Entre 151 et 200.
Moi, j'ai mis C aussi parce que selon moi, c'est ce qui est le plus plausible.
Alors, la réponse est... C'est...
Oh! Yeah! Entre 101 et 150. La réponse exacte, c'est...
125. On a érigé 125 usines de pâte et papier au Québec. La toute première a été construite en 1805 à Saint-André-d'Argenteuil, dans les Laurentides, là, ou pas très loin, dans la région de Montréal. Mais la production industrielle du papier commence réellement au tournant du 20e siècle. Et la Mauricie, c'est la région où il y en aura le plus, là. On a érigé 7 usines de pâte et papier là-bas. Dans les années 20, le Canada est le plus grand producteur de papier au monde, puis la presque totalité des usines sont ici au Québec. Avec ses grandes forêts où la ressource semblait inépuisable, ces rivières qui permettaient de faire descendre la pitoune jusqu'aux usines, de même que pour faire produire l'électricité qui était nécessaire pour la fabrication du papier, ça en prenait pas mal. Mm-hmm. Et enfin, le fleuve Saint-Laurent pour acheminer le produit fini aux clients. Ben, les conditions gagnantes étaient réunies. Aujourd'hui, il subsiste 19 usines de fabrication de pâtes et papier au Québec.
Quand même.
Mais donc, ça allait mieux avant. OK. Question 4. Et qui porte sur la chronique Mini-Pot.
Qui a été faite au mois de mai, début du mois de mai. C'est un vrai ou faux?
Ah ben, une chance sur deux, parfait.
Les Mini-Pot sont un produit québécois. Vrai ou faux?
Aussi absurde que ça puisse paraître, je m'en souviens plus, le mot t'as dit.
Je vais dire faux.
Sais-tu? Attends, moi je veux...
Moi je dis... T'es-tu prêt, là?
Moi je vais dire vrai.
Moi aussi je dis vrai.
Alors, la réponse est... Vrai!
Ouh! Elle aurait dû!
Oh oui, imagine
si Marie-France avait pas écouté la chronique, ben elle l'avait eue, puis nous, on l'avait pas eue. Comment on aurait lancé?
Ah, tabarouette!
Alors, c'est le Québécois Jean Benoît qui construira les premiers mini-pods dans la région de Montréal dans les années 70. Il a eu l'idée après un voyage aux États-Unis. Mini-pot, c'est une marque déposée. Nous, on a tendance à dire on joue au mini-pot, ouais. Là, mais mini-pot, c'est une marque. Les parcours sont exactement les mêmes d'une installation à l'autre. Oui. Dès le départ, la popularité du mini-pot, là, ça a été fulgurant. Les mini-pots poussaient comme des champignons. Il y en avait souvent là, qui étaient... Tu jouais un mini-pot, puis tu voyais l'autre un petit peu plus loin. Là. C'était à ce point-là. Dans le milieu des années 70, il y en a plus d'une centaine au Québec. En tout, 125 seront construits. Mais le déclin sera tout aussi rapide que la montée. Et aujourd'hui, il en reste une dizaine en opération, à peu près.
Question Bonnie?
Oui, concernant encore le mini-golf. Okay. La question Bonnie, c'est... Je suis un joueur de mini-pot célèbre au Québec qui a fait les bonnes années du défi mini-pot à RDS. Je contribue aujourd'hui à perpétuer la tradition du mini-golf. Alors, c'est A, Carl Carmoni, B, Suzanne et André Buis, C, Serge Vleminx ou D, Paul-Raphaël Charon.
Ma petite idée de ce que c'est pas, en tout cas.
Celle-là est facile.
Alors, A, Carl Carmoni, B, Suzanne et André Buis, C, Serge Vleminx, D, Paul-Raphaël Charon.
Marie-France?
Je vais y aller avec Carl Carmoni.
Carl Carmoni!
Yeah!
Facilement, c'est Carl Carmoni. Oui, il a été un des premiers à s'adonner sérieusement au mini-golf lorsque les premiers mini-pots ont été construits.
Oui, puis il était sérieux, hein, ouais, en passant.
Puis à ce moment-là, il y avait des tournois qui étaient assez payants. Les bourses étaient tellement alléchantes que lui, Carmoni, disait qu'il pouvait plus que doubler son salaire annuel dans un été. Écoute. Ça n'a aucun sens quand tu penses à ça. Là.
Je me souviens de la célèbre séquence où Serge Vleminx, qui était le choisi, mais qui était aussi le descripteur, dit « Représentant le mini-pot de Fabreville, sur le regard attentif de sa femme Suzanne. » Puis là, il frappe son cou, puis Carmoni lui-même crie « Ça se pourrait! Ça se pourrait! » Birdie!
Et voilà. Aujourd'hui, il organise des tournois un peu partout au Québec parce qu'il y en a encore. Ils sont pas aussi payants, évidemment, mais quand même, il y en a. Là où subsistent des mini-potes, évidemment. C'est lui qui est derrière le site internet Défi Mini-Potes. Puis ton fameux ça se pourrait Birdie, oui. Là, il vend des t-shirts où c'est écrit ça.
Ah oui?
Ouais.
Ben, bonne idée. Je sais pas pourquoi j'en possède pas déjà. Hein. Ben, il faut que je m'en achète un.
C'est sûr.
Alors, question numéro 5.
Oui.
Les centres commerciaux. Au Québec, on avait fait une chronique là-dessus, fin mai, début juin. Là. Les premiers furent construits au début des années 50 dans la région de Montréal, au Québec. À Québec, quel fut le tout premier à être érigé? A. Place Fleur-de-Lys. B. Place Sainte-Foy. C. Place Laurier. Ou D. Place de la Canardière. A. Place Fleur-de-Lys. B. Place Sainte-Foy. C. Place Laurier. D. Place de la Canardière.
Quelqu'un a une idée?
J'irai avec A.
Place Fleur-de-Lys, moi aussi j'ai mis A.
Moi j'ai mis C, Place Laurier.
La réponse, c'est B.
Hein?
Hein?
B, Place Sainte-Foy.
Place Sainte-Foy?
Et voilà, c'est cette place-là qui a été construite en premier, 1958, Moses. 2 ans avant Place de la Canardière, qui est le deuxième.
Hein?
3 ans avec Place Laurier, qui a été construit en 61. Et quant à Place Fleur-de-Lys, il faudra attendre 1963 avant qu'il soit...
Tu vois bien qu'on t'écoutait pas.
Ben non.
Non, mais en plus, ça moi, j'ai la chronique, je trippe dessus, mais c'est, en plus, c'est quand même pas des détails là, de la chronique. C'est quand même des éléments importants, puis je l'ai pas, maudit.
C'est quand même surprenant, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben voyons donc, Place Sainte-Foy.
Ouais.
J'aurais eu tendance, moi, à répondre Place Laurier ou Place Fleur-de-Lys.
Mm-hmm. Ouais,
Place de la Canardière, ça, c'est vraiment surprenant. C'est le deuxième, là.
C'est, c'est pas Galerie Canardière?
J'ai dit Place, mais c'est les Galeries de la Capitale. Point Bonnie. À quel endroit retrouve-t-on le plus grand centre commercial au Canada? J'ai oublié d'enlever la réponse en plus. je m'aperçois de ça.
Hein? Non,
la réponse est là. Non? Vous l'avez pas?
Excellent.
Non, elle n'est pas là.
Moi, je l'ai pas.
Je l'ai enlevé. C'est beau.
Mais moi, je pense que
alors,
je l'ai.
Alors, à quel endroit retrouve-t-on le plus grand centre commercial au Canada?
Si tout le monde, on essaie ça à trois de dire la même réponse pour voir. Un, deux, trois.
Edmonton.
OK, alors là... Paul, Paul Raphaël, t'as dit Edmonton?
Vez a dit Edmonton.
Aussi? Alors, c'est une bonne réponse.
Oui, parce que je me souviens d'avoir dit, ah ben, il y a au moins une chose de le fun à Edmonton.
Le West Edmonton Mall fait 4 millions de pieds carrés. C'est presque le double de la deuxième position, qui en fait 2,2. C'est un centre commercial à Mississauga, près de Toronto. À Québec, ce sont les Galeries de la Capitale qui remportent la palme. Ils sont 8e au Canada. Cependant, si on met Place Laurier, Place de la Cité et Place Sainte-Foy ensemble, on arrive à 2 millions de pieds carrés, bon, pour le troisième rang canadien. Comme ils sont un à côté de l'autre, bien souvent, on a l'impression de magasiner dans le même centre commercial.
Puis, Place Laurier, Place Sainte-Foy, c'est pas maintenant le même propriétaire?
C'est possible. Bonne question, je le sais pas, ça se peut très, très, très bien.
Quelque part, j'aurais tendance à dire fin février, François... je t'ai dit, on pourrait, tu sais, le virus en Chine qu'il y a, là, on pourrait faire une chronique sur la grippe espagnole. Il me semble que le timing serait bon. Tu sais.
Faudrait que je regarde la date, mais c'est une des premières, celle-là. La première ça a été sur Jean Garon. On avait Jean Garon.
Oui, Jean Garon.
On avait fait le drapeau québécois et je pense que la troisième, c'était la grippe espagnole. C'était assez tôt.
Ouais, Wilbert Berger.
Peut-être pas Wilbert Berger avant, mais c'est une des premières, celle-là.
Je me souviens surtout que c'est au moins 2 semaines avant le début du confinement, tu sais. Puis on se disait, le timing va être bon. Là, on s'est rendu
pas à peu près,
On s'est rendu compte 2 semaines plus tard que le timing serait bon pendant 3 mois pour parler de la grippe espagnole. Donc.
Ouais, la pandémie de la grippe espagnole a fait environ 50 millions de morts partout sur la planète entre 1917 et 1921. Quel est le pourcentage de la population mondiale qui a été touchée par ce virus? Pas qu'il en est morte, qui a été touchée là, par le virus. Est-ce A, 5 % B, 15 % C, 25 % ou D, 35 % la proportion de la population mondiale qui a été touchée par le virus. Donc, des gens qui ont contracté la grippe espagnole, mais qui n'en sont pas nécessairement décédés. A, 5 % B, 15 % C, 25 % D, 35 %
Moi, je coche la même réponse que tu aurais coché, François.
C'est un guess pour tout le monde. Hein?
Ouais, un peu, ouais.
Ben, moi, là, de mémoire, là, me semble que ça avait tué... justement 3 à 5 %. Je dis peut-être n'importe quoi, là, mais il me semble que c'était dans, autour de 3 %. Ça fait que je vais dire 25 % de la population touchée.
Moi aussi.
Alors, c'est pour Vez et pour Paul-Raphaël.
Et, moi, je vais avec
et la petite dernière qui a manqué tous les cours, elle dit quoi? Hein?
Elle dit 35 % puis elle réalise qu'elle est dans le champ, probablement.
Ben, pour vrai, ça se pourrait.
Alors, la réponse, c'est... C'est 25 %.
On était chanceux là-dessus.
Oui, un peu.
Quand même, là, c'est le quart de la population mondiale, le quart qui a été touché pendant les 3 ans que dure la pandémie. Le total des morts, t'étais pas mal dedans. C'est environ 4 % des habitants de la planète à l'époque qui sont décédés de la grippe espagnole. Il y a eu 2 fois plus de morts causées par la grippe que par le conflit, que la Première Guerre mondiale qui se terminait ou à peu près à ce moment-là.
Oui, puis qui était une boucherie.
Oui, oui, c'est ça. Il y a eu 25 millions de morts de la Première Guerre mondiale, puis 50 millions. En fait, c'est 20 millions de décès pour la Première Guerre mondiale, puis 50 millions pour la grippe espagnole.
C'est plus que le double.
Hey, ouais. 70 millions en 10
ans. Ah oui, c'est. Puis la population mondiale n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, là. C'était un méchant ménage, permettez-moi l'expression, là. Et c'est surtout la deuxième vague pendant l'hiver 1918-1919 qui sera particulièrement meurtrière, j'espère. Que l'histoire ne se répétera pas.
Ouais.
La finale de la Coupe Stanley a été annulée cette année-là. Il y a un joueur des Canadiens de Montréal, Joe Hall, qui en est mort. Et c'est une des raisons là, pourquoi, là, à un moment donné, ils se sont dit « Oh, là, ça dérape, là, on fera pas de finale.
» En fait, ça avait commencé, la finale, contre Seattle, mais ça n'avait pas fini.
Ils ont joué un match, hein, je pense.
Plus que ça, me semble.
Okay,
à vérifier.
En tout cas, il y a plein de joueurs qui sont tombés malades, dont lui qui en est décédé. Alors, ils ont annulé ça. Les soldats qui revenaient de l'Europe à la fin de la Première Guerre mondiale ont introduit une souche plus virulente encore du virus.
Ah ouais.
Au Québec, il y a eu une troisième vague au Québec. Ça a été un des rares endroits au monde où il y en a eu une, troisième vague. Et nous sommes un des rares endroits où c'est survenu, comme je disais. Donc, au total, 400 000 Québécois ont attrapé la grippe espagnole. 14 000 en sont morts au Québec.
Catégorie... constructeur d'autobus.
Oui.
La chronique sur Eugène Prévost. Ça aussi, c'était très bon.
Oui, c'est une toute récente. La compagnie Prévost-Car est issue du génie créatif d'un résident de Sainte-Claire-de-Bellechasse, là où est encore l'usine aujourd'hui. Lui, Eugène Prévost, c'est un menuisier de formation, mais il s'attaque à tous les défis de réparation qu'on lui présente. Puis il commence à construire des autobus dans les années 20 et s'y consacre pratiquement à temps plein à partir de la Seconde Guerre mondiale. Un des marchés secondaires de ça, c'est la construction de motorisés. Dans le fond, des autobus, c'est une carcasse d'autobus, mais en dedans, ça n'a rien à voir, là. C'est un Winnebago... une
maison roulante.
Oui, c'est ça, là. Un Winnebago plus, je dirais. Donc, la construction de motorisés, c'est une bonne part des profits de Prévost-Car. Dans des bonnes années, combien Prévost construit-il de motorisés?
Par année.
Par année, là. A, entre 20 et 25. B, entre 50 et 75. C, entre 100 et 125. D, entre 140 et 150. Dans les bonnes années. Ce ne sera pas ça cette année, là, je vous le confirme.
Là,
mais
là,
d'habitude, là, dans les bonnes années, il y en a combien?
Okay.
A, 20-25. B, 50-75. C, 100-125. D, 140-150.
J'ai-tu le droit d'avoir un appel, genre quelqu'un qui aide, qui appelle aussi?
Appeler un proche.
670, 670, oui, 9330, mettons.
Je vais te dire, je vais te faire le chemin mental pour lequel je pense que j'ai la bonne réponse. De mémoire, tu nous avais dit, dans les bonnes années, il en faisait 3 par semaine. Dans les mauvaises, il en faisait 1 ou 2 semaines. Mais il me semble que tu as quelque chose...
Ça, j'ai peut-être pas les bons chiffres. C'est le nombre d'autobus à un moment donné. C'est une bonne question, flûte. Ça.
Ah, c'est peut-être les autobus. Ah, parce que là, j'ai dit entre 140 et 150.
Parce que ça, je me souviens, c'était la fin de la chronique, puis j'avais dit, ça se
j'ai
vend...
peut-être pas les bons chiffres non plus.
Ouais, peut-être.
C'est peut-être pas exactement ça non plus.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas coché B, fait que je vais y aller avec B.
OK, c'est ça.
Reste, toi.
Ouais, moi, je me fais une moyenne. S'ils en font 2-3 par semaine, ouais, ça... Même pas. Non, en tout cas, j'ai mis B, 50 à 75. Un par semaine, peut-être un peu plus. Je trouve que c'est une bonne moyenne pour ce genre de véhicule-là.
Paul Raphaël?
C'est quoi la réponse?
Mais là, faut que tu donnes
après, entre 140 et 150.
Toi, tu dis D?
Ouais, ouais.
Alors,
j'ai calculé 3 par semaine fois 52.
La réponse, c'est D.
Yes!
Entre 140 et 150.
Ouais, c'est incroyable.
C'est incroyable.
Parce que ce type d'autobus-là vaut au bas mot 1,5 million pièces. Alors, faut avoir de l'argent pour acheter ça, là. Toutefois, Prévost fabrique la coquille, puis c'est une autre compagnie qui s'occupe de la finition intérieure. Okay. Eugène Prévost est l'un des premiers à avoir construit un tel véhicule. Il a lancé un prototype en 1948. Il voulait le vendre 5000 $. Ça n'a pas marché. Il n'a pas trouvé preneur. Mais en 1951, il reçoit une commande du propriétaire du Globe and Mail de Toronto. Monsieur Prévost conçoit le véhicule selon les spécifications de l'acheteur. Il va le vendre 12 866 $ et 95 sous.
Hey là là.
À l'époque, en 1951.
OK. Dernière question. Vais, j'ai pas compté les scores encore, mais je pense que je suis un petit peu en avance sur tout ce fait que là. Faut que tu te reprennes sa dernière. Question Carnaval de Québec.
Oh! Dans le quiz.
Oui, le Carnaval de Québec, c'est en 1955 que le Carnaval prend réellement son envol puis devient un événement annuel. Il y a plusieurs éditions, cependant, qui sont tenues avant 1955, mais qui étaient dispersées dans le temps. Dans le fond, on faisait un carnaval quand ça a donné. Celle-ci est considérée, celle de 1894, est considérée comme la véritable première. C'est celle-là, là. Quand on parle du premier carnaval, on parle de celui de 1894. Qui, à l'époque, avait été l'instigateur de ce carnaval? Est-ce A, Simon-Napoléon Parent, B, Frank Carrel, C, Wilfrid Laurier, D. Louis-Alexandre Taschereau.
Le Vez, là, il a la face d'un vainqueur. Là, il y a de l'air sûr de son coup.
Il
est
tellement confiant. Là.
Moi, je me souviens...
Alors,
c'est flou
A,
dans mes souvenirs.
Simon-Napoléon Parent. B. Frank Carrel. C. Wilfrid Laurier. D. Louis-Alexandre Taschereau.
Vez, t'as de l'air sûr de ton coup.
Je suis tellement sûr
c'est
de mon
qui?
Coup. Frank Carrel.
C'est ça, j'ai mis mon.
Ah, mais moi aussi.
C'est Frank Carrel.
Yeah!
Bravo.
Alors,
c'est Frank Carrel, là, et quand même plus qu'une voie de desserte du boulevard Charest. Monsieur Carrel était le propriétaire du Québec Daily Telegraph, le plus vieux journal en Amérique du Nord, soit dit en passant. C'est lui qui suggère cette fête pour redonner de la vigueur à la ville. À cette époque-là, là, 1894, l'économie ne va pas très bien à Québec. On tente de donner un second souffle à la ville et permettre à sa population de s'amuser un peu. Surtout, effet non négligeable, quelques mois auparavant, en décembre, on a inauguré le Château Frontenac. Donc on s'est dit, on a un nouvel hôtel, nec plus ultra en ville. Ça va
ça
probablement...
Ça va prendre
le party. Ben, c'est ça. Puis ça va attirer du monde en plus. À part ça, ben, les activités portuaires diminuaient. Il y avait plusieurs fermetures de chantiers navals. L'économie mondiale tournait au ralenti. Et la ville de Québec n'y échappait pas. Donc, on a décidé à l'automne. M. Carrel dit, let's go, on part un carnaval. Les gens ont embarqué. Et les commerçants là, de la ville de Québec, comme Zéphirin Paquette, entre autres, et M. La Liberté, de JB La Liberté, ont embarqué.
Jean-Baptiste, sans doute.
Jean-Baptiste, c'est ça. Et ça a été un succès bœuf. Alors, Frank Carrel est l'instigateur du carnaval de 1894. Carnaval qui est devenu un événement annuel à compter de 1955.
Score final?
J'ai eu trois.
Ah, mais c'est trois, mais non, mais sans avoir regardé aucune chronique.
Ouais,
c'est-à-dire aucune
30%
chronique.
Ouais, mais c'est dégoûtant.
Ben oui, mais là, qu'est-ce
ça va te prendre un examen de reprise.
Ouais, ouais. On va faire des cours d'été.
C'est bon, ça.
Vez?
7 sur 10.
Oh, c'est bon,
sur
ça.
10. 8 sur 10!
Oh! Bravo, Paul-Raphaël, notre oh! grand champion, notre oh! grand studieux.
C'est un prof.
François, tu passes... Tu passes l'été avec nous au 93,
oui.
Notamment sur l'émission du retour.
Oui, je fais tout l'été au retour.
T'es-tu dans l'architecture ou on va t'entendre un peu?
Oui, on m'entend. Je suis dans l'architecture, mais aussi on m'entend. Puis je fais quelques petites chroniques comme ça, là, plus léger, là, des sujets plus légers.
J'adore ça.
Mais j'en
François, fais
quelques-unes.
Vas-tu nous faire l'honneur peut-être de revenir à l'automne? Si nous, on est encore là. On sait. Si... Moi, j'ai appris une chose en radio, faut pas se projeter trop tôt dans l'avenir. Mais...
Là, on est quoi aujourd'hui, le 28 juin?
Oui. Ben,
l'automne, là, c'est dans...
deux vies.
À peu près. À peu près. Mais si vous voulez de moi et si Dieu vous prête fonction et vie, je serai honoré de continuer ces chroniques-là. Hey. Ça a été vraiment le fun, puis je vous remercie de l'opportunité.
Ben, merci
que vous
à toi,
donné.
François. Je sais que ça représente beaucoup de travail. Merci d'avoir fait ça avec nous. Sincèrement, moi, j'ai adoré ça. Je trouve ça le fun. Je trouve ça important qu'on se penche un peu sur notre histoire. Puis grâce à toi, vraiment, on a été capable de le faire. Merci beaucoup, François Terrien. Dis le sieur de Terrien, très studieux devant l'éternel.
Merci.